Bonjour à tous, je suis Emmanuel Henao et j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Serge Do. Bonjour Serge.
Bonjour Emmanuel.
Comment vas-tu?
Très bien et toi?
Je te remercie d'être là. Et si tu me le permets, je vais présenter en quelques mots les Faiseurs de Sport ou Sportmakers qui est produite par Smart Sport et qui est l'objet de ta visite avec nous aujourd'hui. C'est bon pour toi?
Très bien.
Parfait. Donc, chers amis, les Faiseurs de Sport a vocation à produire un éditorial, à produire du contenu sur l'écosystème du sport en Afrique, de manière générale, pour mieux comprendre, mieux décrire comment se pratique justement le sport, comment s'organise le sport en Afrique et surtout quels sont les potentiels du sport en Afrique. Nous décidons, et son nom l'indique, les Faiseurs de Sport, de rentrer par les expériences d'individus et de personnalités qui sont donc les players du sport. Alors, elles ont été players parce qu'elles ont été sportives de haut niveau elles-mêmes, ou elles ont été managers de sportifs, ou alors tout simplement, elles ont un rapport, mais un rapport très pratique avec le sport en Afrique. Nous allons maintenant, si tu veux bien, faire connaissance avec toi, pour ensuite aborder des sujets qui nous importent tous les deux. Et je voudrais tout simplement, Serge, que tu commences par nous dire quel sportif tu as été.
Alors, Serge Do, j'ai commencé le sport en fait à Amiens, en France, de façon accidentelle. C'est mon prof de collège qui... voyant mon gabarit, on a tous commencé par jouer au foot, hein, taper de la balle dans la rue, en Côte d'Ivoire, par réflexe, etc.
Ouais.
Et une fois que je suis arrivé en France, je tombe sur un féru d'athlétisme, hein, un coach, je ne savais pas ce que c'était, Monsieur Pierre Lapré, qui je rends hommage. Et Pierrot, comme on l'appelait, il dit, mais toi, tu as un beau gabarit, hein, pourquoi est-ce que tu n'essayes pas à faire des tests au lancer de... soit en longueur, ou je ne sais quoi, ce truc-là. Donc, c'est comme ça que je suis arrivé à faire des tests qui se sont avérés naturellement concluants tout le terrain. Il me dit, viens l'entraînement. Et c'est comme ça que je suis resté. Et chemin faisant, je suis devenu athlète de haut niveau.
Alors, tu parles de gabarit. On n'est pas à la télévision. C'est un podcast sonore. Et donc, décris-nous ton gabarit. Tu mesures combien? Tu pèses combien?
1,82 et 100. À l'époque, 1,82, 95, 90 kilos. Maintenant, bon, avec...
Donc, un rapport taille-poids-puissance qui était intéressant.
Très, 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 très intéressant.
Très intéressant.
Très, très, très dynamique, très tonique, puisque à la fin, j'ai commencé par être sprinter, avant de devenir lanceur de poids et de disque. Et c'était vraiment, il fallait, c'est des disciplines, il faut être vraiment très dynamique et très, très explosif.
Donc, premier élément que je retiens du début de ta présentation, c'est qu'en fait, c'est une rencontre. Absolument. C'est quelqu'un qui te voit, qui te regarde et qui décèle un potentiel chez toi.
Absolument.
Ce monsieur, c'est
Pierre Lapré.
Pierre Lapré, que tu dis, donc tu lui rendais hommage.
Je rends hommage, Pierre, qui est le bourguignon.
Où est-ce qu'il t'a amené ce Pierre Lapré, alors, en termes de pratique, d'apprentissage et ensuite, évidemment, de performance?
Pierre me donne les rues du monde de l'athlétisme. Il me donne, il me coach dans comment être une préparation qui est avant tout physique et aussi un volet mental. Ensuite, la préparation physique, parce que j'étais d'abord sprinter et lanceur de disques et poids après.
Oui.
Donc, le côté musculation, préparation. Donc, il y avait tout ces, la PPG. Donc, tout ce côté-là était bien. Et ce qui fait qu'on part de, donc, ensemble, on gagne des médailles. On a été vice-champion de France UNSS scolaire.
D'accord.
Et, vice-champion de France aussi, fédéral, avec mon club qui était l'Amiens Université Club, où on était tous à Amiens. Et, après, je grandis, je croise d'autres coachs, je quitte la France pour aller aux États-Unis pour préparer les Jeux Olympiques de 96. Et avec un coach, Peter Farmer, qui est un Australien qui réside aux États-Unis en Caroline du Nord.
Oui.
Et c'est avec lui qu'on a développé d'autres facultés, une autre dimension. On aurait dû être champion d'Afrique.
Donc là, tu t'es spécialisé sur quelle discipline?
Je suis resté, j'avais arrêté entre temps le sprint.
Oui.
Donc je suis rentré directement focalisé sur le lancer des disques et le poids.
D'accord.
Qui m'a valu d'être en 96 champion d'Afrique au lancer de disques et médaillé de bronze au lancer de poids au championnat d'Afrique 96 qui a eu lieu à Yaoundé au Cameroun.
Très bien. Et ton expérience olympienne alors?
Alors, ça c'est une grosse histoire. On devait y aller et finalement, on n'a jamais compris ce qui s'est passé. On était sur la liste, on a été sélectionné et on nous a donné rendez-vous à l'aéroport de Port-Boué pour pouvoir prendre l'avion. On arrive, il se trouve qu'il y a 7 ou 10 athlètes des lutteurs et des athlètes de la Fédération d'athlétisme qui qui n'était pas inscrit, soi-disant. Donc, on a jamais pu décoller pour les Jeux Olympiques d'Atlanta.
Donc, convoqué.
Convoqué.
Mais pas possible de monter dans l'avion.
Exactement.
D'accord. Peut-être qu'on reviendra sur cet épisode douloureux tout à l'heure. Absolument. D'accord. Absolument. Parce que là, tu fais du coup le rapport entre ton parcours de champion qui s'est développé à l'extérieur de la Côte d'Ivoire d'une certaine manière, mais aussi évidemment tu as porté les couleurs de la Côte d'Ivoire et c'est une expérience que tu pourras nous partager tout à l'heure.
Absolument.
Très bien. Merci Serge pour ce début de présentation. Est-ce que tu peux nous parler maintenant, enfin continuer à te présenter en parlant de ta reconversion justement, de dire donc comment est-ce que tu as terminé ton parcours de champion et de sportif de haut niveau et comment tu as appréhendé et préparé la reconversion et aujourd'hui nous expliquer aussi rapidement ce que tu fais et où tu développes ta carrière.
Alors c'est très simple, moi j'ai toujours eu une mentalité de gagneur parce que le sport, l'athlétisme m'avait donné ces valeurs-là. Déjà même étant sportif de haut niveau à Amiens, j'avais déjà fait un fundraising qui permettait à la mairie d'Amiens de me sponsoriser et à des sponsors pour que je puisse aller en Caroline du Nord, rejoindre Peter, le coach, pour pouvoir me préparer pour les Jeux Olympiques de Atlanta. Donc, j'avais déjà cette fibre d'entrepreneur et d'homme d'affaires. Donc, ce qui fait que, quand je vais aux États-Unis, après avoir fait ce fundraising, je vais aux États-Unis, je m'entraîne pour préparer pendant au moins combien de mois, 4, 5, 6 mois, je m'entraîne en Caroline pour revenir après en France, compétir, pour faire ma qualification pour les Jeux Olympiques d'Atlanta.
Oui.
C'est là que je me suis fait remarquer par beaucoup de universités américaines. Et après donc les JO en 96, donc je reçois une bourse d'une université américaine dans laquelle je retourne donc me concentrer à faire le sport et aussi les études.
D'accord.
Et je fais des études de business. Et après, je dis qu'est-ce que je fais? Je continue à m'entraîner, à vieillir sur les pistes. Je dis, tiens, je commence à travailler. Après, j'ai commencé aussi à contacter des entreprises américaines pour venir investir en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est ainsi que j'ai ramené donc la première entreprise d'inclusion financière et de monétique aux années 2005-2004. Ça s'appelle Global Technology Partner, que j'ai ramené ici. J'ai réussi à convaincre les Américains à venir en Afrique, en pleine crise d'ailleurs, parce que ça, rappelez-vous qu'en 2006, la Côte d'Ivoire était encore partitionné entre la Côte d'Ivoire, le côté nord et sud.
Oui.
Et donc, on arrive à explorer, à trouver une banque partenaire pour lancer la première carte Visa prépayée en 2005-2006. Et donc, tenez-vous bien, on l'a fait à partir du Burkina Faso. Et depuis lors, cette structure de laquelle je suis vice-président aujourd'hui, on est à partir du Burkina, l'expérience du Burkina m'a donné raison. Puisque aujourd'hui, on a plus de 35 pays aujourd'hui africains dans lesquels nous sommes présents et on a comme clients plus de 80 banques. Donc voilà un peu ma réconversion dans le monde des affaires et au-delà de ça, d'autres activités, on y reviendra en tant que intermédiation, management, vice-président de la Fédération d'athlétisme de Côte d'Ivoire, d'accord, etc., etc.
Très bien. Donc effectivement, une reconversion rondement menée. Ce que je retiens, c'est que tu avais un sens entrepreneurial un peu inné que tu as très vite exploité et alors que tu étais encore sportif justement pour te permettre à toi-même de t'entraîner dans les bonnes conditions et de financer tes préparations et tes compétitions. Qu'ensuite, le sport également t'a permis donc d'obtenir une bourse et d'aller dans une très bonne université et donc commencer ta reconversion. Mmh. Et que donc le sport, évidemment, a joué un rôle, une forme de rampe de lancement pour toi.
Absolument.
Aujourd'hui, en tant que businessman, en tant que dirigeant, en tant qu'homme d'affaires, qui navigue entre les États-Unis et l'Afrique, et tu nous l'as expliqué avec réussite, dans quoi tu vas encore puiser, alors de manière consciente ou inconsciente peut-être, mais dans quoi tu vas puiser de ton parcours de sportif de haut niveau pour être performant en tant que businessman, manager et dirigeant?
Effectivement, le sport, quand tu es sportif de haut niveau, en plus de l'école de la vie, en plus de l'école académique, c'est une école en tant que telle. Parce que ça te forge, ça te prépare, ça te donne des valeurs de concentration, de préparation, la gagne, le fighting spirit dont on parle. Donc, toutes ces valeurs-là qui sont en toi font de toi quelqu'un qui a envie de gagner partout où il passe. Effectivement, donc c'est le burning desire, comme on dit, qui te donne cette envie de gagne avec un esprit de fair play, avec un esprit de méthodologiquement préparé. Toutes ces valeurs-là, je les tire du sport. En plus du côté académique, en plus du côté instinctif et le côté visionnaire, toutes ces choses-là, j'avoue que le sport m'a vraiment apporté beaucoup. Et tous les jours de ma vie, j'utilise ces valeurs-là que le sport m'a donné.
Donc on voit que tu penses en anglais et en français, hein. Fighting spirit, burning desire, des formules mais on comprend bien. On sent que effectivement tu as à la fois beaucoup d'instinct, beaucoup d'impulsivité dans le bon sens du terme, c'est-à-dire tu passes à l'action rapidement, probablement la prise de risque aussi, l'audace, qui sont des compétences entrepreneuriales importantes.
Absolument.
Et avec évidemment, et c'est ça la, je pense en tout cas la force du sportif, c'est de se poser les objectifs et de créer les conditions pour atteindre ces objectifs.
Absolument. C'est comme je dis toujours, c'est on a la vision, mais quand on n'a pas la provision de la vision, ça devient de la révision.
D'accord. Autre formule.
Autre formule.
Ok.
Exactement. Ouais, donc c'est tout ça pour dire que c'est bien d'avoir un rêve, d'avoir des objectifs. Il faut se donner les moyens d'atteindre cet objectif-là et d'atteindre dans un esprit positif, dans un esprit ordonné, un esprit de discipline. Ça, c'est un mot important, la discipline. Et un esprit de fair play et aussi avoir aussi un côté éthique et moral. Parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à tous les prix. Non.
Discipline et fair play. Merci, Serge. Alors, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on vienne tout simplement sur une partie de ta vie que tu mets en œuvre aujourd'hui, qui est l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Donc, on a compris que tu as été sportif de haut niveau, que l'importance de tes coachs et de tes managers, que ce soit en France ou aux États-Unis. Et donc, aujourd'hui, toi-même, tu as décidé d'endosser, alors tu vas nous dire depuis combien de temps, vers qui, auprès de qui et où, cette veste de coach et de manager sportif. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu mieux coach, cette partie-là?
Bien sûr. Coach, alors coach, déjà, je l'ai été très, 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 très rapidement. Aux États-Unis, j'ai été coach dans les high school.
D'accord.
Où je donnais des cours à des athlètes, jeunes athlètes américains, qui étaient des très bien performeurs au lancer.
D'accord.
Ensuite, je l'ai été aussi à Amiens déjà, hein, quand j'ai fait la formation fédérale, en animateur et fédéral, et aussi le niveau 1 de la fédération, numéro 2, la fédération française d'athlétisme.
D'accord.
Et donc, on avait déjà l'école d'athlétisme, déjà à Amiens, au club de l'Amiens Université Club, dans lequel j'étais. Et aussi, j'avais aussi commencé chaque été à initier ce que j'appelais le sport social. Ça veut dire que je suis allé voir la mairie et je dis, écoutez, il y a des enfants qui n'ont pas les moyens d'aller en vacances. Donc, je faisais du porte-à-porte dans la rue. Je recrutais des enfants. J'ai dit, écoutez, venez. Donc, on s'est retrouvé avec plus de 50 gamins.
D'accord.
Et sur le stade, et on faisait initiation à l'athlétisme. Le matin, athlétisme, on prenait une discipline, etc. On les formait, on les coachait. Et le soir, ils faisaient le loisir parce que la mairie nous aidait. Donc,
ça, c'est tu redonnais déjà, finalement, ton apprentissage, ta pratique.
Donc,
en même temps que tu pratiquais encore, tu avais déjà décidé
de donner. C'est le côté, comme on dit en anglais, encore une fois, give back to the community. Parce que c'est important de donner dans l'environnement immédiat. C'est une sorte de RSE individuel. Okay? Et donc, et ça, c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur. Et donc, j'ai toujours donné depuis tout ce temps-là. Et après ça, c'est le côté coach. Donc, je suis coach aux États-Unis, je suis coach à la MIUC, je suis coach un peu en Côte d'Ivoire. Et je tombe sur Muriel Aouré, que tout le monde connaît aujourd'hui. À Washington, sa mère me l'envoie. Elle me dit, voilà ma fille qui a des bons résultats, etc. Donc, je check sur Internet pour voir à peu près à quoi ça ressemble.
En quelle année, Serge, ça?
Oh, 2007. J'ai oublié les années, mais c'est au moins 7 ans. Hein.
D'accord.
Voilà, au moins 5-6 ans.
Donc, début des années 2010.
Voilà, exactement. Et donc, du coup, je regarde sur Internet, je vois qu'elle a des très bons parcours, elle a été championne universitaire américaine en salle, aux 200 mètres, NCAA, ce qui est énorme. Et donc, du coup, je décide donc de l'encadrer, de donner les rudiments de ce que j'ai appris, de haut niveau, de donner des conseils, de l'encadrer, et jusqu'à ce qu'elle fasse sa première compétition à Istanbul, le championnat du monde. Elle n'avait jamais été au championnat du monde, et elle arrive. On prie ensemble, on a des atomes crochus, on a notre format de coopération mentale et spirituelle et physique aussi. Et du coup, elle arrive, elle éclate, pouf, je suis champion du monde. Et
wow.
Maintenant,
D'accord, donc
elle explose à Istanbul.
2000
j'ai un tour de mémoire, on va regarder ça. Et donc, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire la découvre, et c'est parti de l'aventure. Aujourd'hui, on est à plus de 5 à 6 médailles aujourd'hui au championnat du monde. Elle a été championne du monde, on a pu avoir le titre finalement. On a eu 4 médailles de championnat du monde, vice-championne du monde, indoor et outdoor.
C'est très inspirant, et là, il faut que tu nous en dises un petit peu plus du coup. Muriel Aouré, tout le monde la connaît. Le travail que vous avez fait ensemble l'a fait exploser donc au championnat du monde d'Istanbul, et aujourd'hui, comme tu l'as dit, 5 médailles, tu dis
5 médailles, ouais.
Bon, c'est magnifique. Alors dis-nous tout, comment on fait pour amener justement une championne ou un champion à ce niveau-là, et surtout qu'elle reste à ce niveau-là pendant toutes ces années?
Alors, il faut savoir que
nous, les clés,
Muriel les clés. Elle-même, c'est une championne, c'est elle qui a la base, c'est elle qui a le truc. Sans le truc, on peut pas bâtir dessus. Donc c'est une gagnante, c'est une jeune fille qui est très très intelligente, très douée et qui a beaucoup de capacités. Et donc moi j'intervenais pas parce que on n'avait pas ce day to day activities. Donc il y a un coach sur le terrain tous les jours, la préparation avec qui on échange, qui me donne un peu la vision, je donne un peu cette vision, mais c'est lui qui fait le travail sur le terrain.
D'accord.
Ensuite, le côté mental, moi, je m'occupais de ça, le boost et la motivation, parce que le physique sans le mental, c'est pas évident.
Ouais.
Donc, moi, j'étais plus mental et aussi préparation de l'interaction entre elle et le côté Afrique. Le gouvernement, les entreprises, la population, comment la préparer pour qu'elle intervienne en public, préparer le tract, comment la préparer pour être... quelqu'un qui donne une bonne image, un bon vibe à la communauté, qui l'adule et qui prie pour elle, etc. Je ne sais pas si j'ai posé la question.
C'est bon? Si, on comprend bien que qu'un champion de ce niveau-là, il s'entoure de différentes compétences qui peuvent pas être réunies en une seule personne.
Absolument.
Et c'est ce que tu nous décris là. Il y a un entourage qui doit être...
Il y a le kiné, il y a un coach mental, le sophrologue, les masseurs, enfin vraiment c'est tout un... Et ça coûte très très cher.
Alors ça, on va y venir aussi justement. C'est évidemment un point important. Je voudrais juste revenir sur Muriel et Marie-Josée, d'ailleurs, Talou, puisqu'on en discutait en préparant ce podcast il y a quelques mois, donc quelques jours même, fin septembre. Les deux étaient alignés au 100 mètres des championnats du monde de Doha.
Au Qatar. Mmh.
Donc, les deux étaient alignés, je répète bien, sur la finale du 100 mètres féminin des championnats du monde de Doha. C'est absolument extraordinaire.
Phénoménal.
Deux Ivoiriennes. Et on se disait tous les deux, mais c'est extraordinaire. Et tu me disais que tu pensais que la grande majorité des gens ne se rendaient pas compte que ça demandait d'être à ce niveau-là, sur le toit du monde. De la distance reine de l'athlétisme, le 100 mètres, tout le monde les félicitait sur Facebook, Twitter, etc., mais que personne ne prenait la mesure de ce que ça représentait vraiment d'être sur le toit du monde.
C'est exactement ça, malheureusement, parce qu'on ne se rend pas compte que toutes les grandes nations du monde, les États-Unis, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc., le Canada, ils se battent pour avoir un couloir en finale du championnat du monde de 100 mètres. Parce que la discipline reine de tout l'athlétisme, c'est le 100 mètres masculin et féminin. Chez les hommes, on a Usain Bolt. Chez les femmes, on a Fraser et toute la clique derrière, etc. Donc, chaque couloir vaut son pesant d'or. Alors, on s'imagine que depuis, pas la première fois, depuis plusieurs années maintenant, la Côte d'Ivoire a deux couloirs. Pas un, mais deux couloirs.
Au début, il y avait que Muriel. Pour les gens qui ne connaissent pas, sur combien de couloirs?
Il y a 9 couloirs. 8 à 9 couloirs.
Pour le monde.
Ça dépend. Le monde entier.
Pour le monde entier.
Toute la planète, il n'y a que 8 à 9 couloirs. 9 couloirs.
Donc potentiellement, 9 nations qui peuvent être représentées.
Exactement.
Or, la Côte d'Ivoire en prend 2.
En prend 2. Je ne sais pas si vous pesez un peu cette valeur-là. Et ça, c'est énorme. Et ce n'est pas la première fois. Au début, Muriel était la seule. Et Marie-Josée l'a rejoint parce qu'elle a été inspirée par sa grande sœur. Et aujourd'hui, elle forme une équipe de haut niveau. Et la Côte d'Ivoire doit vraiment être plus que fière de pouvoir avoir ses athlètes à ce niveau-là. C'est un cercle très, très, très fermé où les gens payent des millions et des millions de dollars, des préparations par pays, ça les valorise. Donc, quand vous prenez le couloir, on a deux Jamaïcaines,
ouais.
Deux Ivoiriennes,
ouais.
Et les autres nations.
Et le reste du monde.
Le reste du monde. C'est incroyable. Et ça, il faut le valoriser.
Alors, il faut le valoriser. Comment? Avec qui? Là, je, évidemment, te demande peut-être d'en dire un peu plus et d'avoir un regard peut-être un peu sévère, je ne sais pas, en tout cas un peu réaliste sur cet état de fait. Deux couloirs, aujourd'hui, comment est-ce que l'athlétisme ivoirien et l'athlétisme même ouest-africain, on peut dire, capitalise là-dessus, qu'est-ce qu'il se passe derrière pour que justement une relève soit présente? Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton avis sur cela?
Il n'y a pas de mystère, hein. Je veux dire que la relève se prépare par la détection et la formation. Donc, tout cela demande des moyens. Donc, on en revient à l'éternel problème du sport en Afrique.
Oui.
C'est les moyens. La limite de l'État-providence avec les budgets à disposition des ministères, des différents ministères des sports, a montré un peu ses limites. Et je pense que il est peut-être temps qu'on passe dans une vision du sport artisanal dans laquelle nous sommes aujourd'hui, à essayer d'entrevoir une vision du sport, de l'industrie du sport. Une industrie, ça se formalise. Une industrie, ça se prépare.
Oui.
Une industrie, ça s'organise. Donc, le ministère seul, en tant que tutelle, il y a des pays qui n'ont même pas de ministère des sports. Aux États-Unis, ça n'existe pas, le ministère des sports.
Ah, c'est intéressant, ça.
Ça n'existe pas,
le ministère des sports. Qui représente le sport
c'est
au niveau
des États, c'est des industries, c'est des gens. Donc, il y a quand vous prenez l'ossature du gouvernement de chaque président américain,
oui.
Il n'y a pas de ministère des sports, secrétaire d'État, in charge of sport. Ça n'existe pas. Donc, on doit et ils sont numéro un aujourd'hui. Donc, l'industrie, elle existe. Le sport et les loisirs sont des industries qui ne sont pas encore organisées à mon goût. Et je pense qu'il est temps maintenant pour les États africains, avec tous les players et tous les de l'industrie, les mécènes, de pouvoir s'asseoir et réfléchir à comment formaliser cet écosystème du sport aujourd'hui.
Alors, je te coupe un tout petit peu, Serge, parce que là, tu utilises des mots, des phrases que l'on entend, il faudrait que l'on s'organise, que l'on pense ensemble. Mais en réalité, là, c'est un petit peu le discours de tout le monde, justement.
Absolument.
Et donc, il faut obtenir peut-être un autre discours. Et puis surtout, il faut peut-être oser de nouveaux modèles. Est-ce que toi, justement, dans ce parcours à la fois de business aujourd'hui, mais issu du sport de haut niveau, accompagnant Muriel Aouré, donc étant vice-président de la fédération, donc étant vraiment un player à différents niveaux de l'écosystème du sport, est-ce que tu as des propositions concrètes? Est-ce que tu as des exemples pratiques de ce que pourrait être ce nouveau modèle?
Ce nouveau modèle ne pourra marcher que si on met en place l'écosystème favorable entre les mécènes, qui sont les entreprises, et les régulateurs du sport. OK? C'est ce que j'appelle la RSE sportive. Et s'il n'y a pas un écosystème législatif fort qui encadre l'environnement, qui donne, de façon... Bon, il y en a un qui est là actuellement, mais qui n'est pas assez volontaire, qui donne vraiment une grande défiscalisation aux entreprises qui investissent dans le sport de façon transparente et de façon bien organisée. Donc, tous ces acteurs-là doivent se retrouver dans ce que j'appelle une espèce de haut conseil de l'industrie du sport. Un peu soit une sorte de loi spécifique où le sport, on dit, voilà, si j'investis 100 millions ou 200 ou 300 ou 500 millions de francs CFA dans tel sport ou dans le sport de façon générale, j'ai une déduction autour de mes impôts. C'est parce que je fais de la RSE. Est-ce qu'on peut formaliser une RSE sportive dans ce sens-là? Au-delà de parce qu'aujourd'hui, ce qui existe, c'est la parafiscalité, qui touche deux ou trois secteurs, le tabac et la téléphonie, je crois.
Mm-hmm.
Alors, il faut étendre l'assiette.
D'accord.
Il faut élargir l'assiette de sorte qu'on puisse ratisser large sans aussi axifier ceux qui veulent donner.
Alors, ça, c'est quelque chose, je pense, que l'on comprend bien, parce que c'est des modèles qui existent ailleurs et qui ont déjà été discutés.
Il faut qu'ils soient.
Donc, il s'agit de volonté politique. Il s'agit aussi d'un timing qui doit être approprié. Donc, ce sont des choses qui sont déjà discutées.
Mais il faut les appliquer. Il suffit pas d'y penser, mais il faut les appliquer. Et moi, c'est là où moi je suis un peu où je suis interpellé, parce que je pense que il est temps. On perd du temps. Il faut dès maintenant appliquer cela, parce qu'on a besoin de cet argent dans le sport pour amener le sport à une autre dimension.
Donc il faut à la fois mener et continuer à mener ce plaidoyer et donc explorer ces solutions qui sont déjà éprouvées ailleurs, et surtout trouver les hommes qui vont la mettre en pratique, qui sont convaincus par cela. Et en même temps, pour ne pas être dépendant de ça, tu m'évoquais tout à l'heure un modèle d'entrepreneuriat sportif, et en même temps, il faut peut-être mettre des modèles en place qui permettent de ne pas attendre, et aussi de faire reposer le financement du sport par d'autres moyens, d'autres véhicules. Est-ce que tu peux m'en dire un mot ?
Absolument. Alors, une fois que cet écosystème est en place, il y a encore un rôle que peuvent jouer les ligues et les clubs de façon délocalisée. Sur le terrain, elles ont leur part à jouer,
à jouer dans
l'écosystème, puisque c'est eux qui sont les demandeurs. Donc, je réfléchissais à ce concept que j'avais trouvé de sportif planteur.
Sportif planteur.
D'accord. Je m'explique.
Ouais.
Il s'agit de prendre un lopin de terre, 3, 4, 5 hectares, 10 hectares, selon la demande, et de faire une plantation de vivriers. C'est du court terme, 3 mois, 4 mois, jusqu'à la récolte. Donc, on peut prendre du piment, on peut prendre des aubergines, du gombo, et ça peut créer une sorte d'autonomie aux ligues, aux clubs de chaque région, de pouvoir avoir un champ commun dans lequel ils peuvent jouir de fruits, des récoltes. Et ça, c'est une énorme source de financement à leur portée qu'ils peuvent exploiter, en attendant que les mécènes et la loi sur le sport permettent la fluidité de l'investissement et la défiscalisation du secteur pour que tout cet écosystème se mette en place.
Donc, tu inventes, d'une certaine manière,
l'autonomie.
L'AGRS, l'activité génératrice de revenus pour le sport.
Exactement.
L'AGRS.
C'est un bon concept.
Alors, ça m'intéresse ce que tu dis, parce qu'effectivement, là, tu présentes une solution qui va puiser dans la force du sport et du sportif, qui en fait fait de lui un entrepreneur en puissance, surtout dans notre écosystème, où en plus, pour se préparer, pour performer, il a besoin de créer des conditions pour lui-même. Et c'est ce levier-là en fait que tu vas chercher.
C'est exactement ça. En fait, c'est vrai qu'on dit toujours qu'on a besoin des mécènes, des entrepreneurs, mais si le sportif lui-même, la fédération, même si ce n'est pas vocation à le faire, mais si elle peut créer des conditions d'autonomie par des activités génératrices de revenus, en attendant ce que les autres revenus du sponsoring et du mécénat arrivent, mais mis bout à bout, on explose l'écosystème des sports de façon exponentielle jusqu'à ce qu'il y ait vraiment suffisamment de revenus, qu'il n'y ait plus de dépendance, qu'on puisse aller où on veut, faire ce qu'on peut, qu'on puisse détecter et former convenablement, et par ricochet, on fait une grosse nation sportive.
Bon, mais c'est intéressant parce que ça ne t'aura pas échappé, mais en ce moment, il y a un grand sujet sur le sport et développement, une diplomatie du sport qui se met en place, notamment avec la France, dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et donc, il y a des agences qui, d'habitude, menaient des projets de développement, qui ont intégré maintenant dans leur approche le sport également.
Très bien.
Donc, l'Agence française de développement, par exemple, l'AFD, aujourd'hui, développe une grande ligne stratégique autour du sport qu'ils ont appelé sport et développement. Et donc, ce que tu décris là pourrait peut-être les intéresser.
Parce qu'on
vient mixer finalement différents types d'interventions.
C'est un relais. Hein, ensemble, on est plus fort. Donc, c'est l'alliage de ces idées-là, mis bout à bout, dans un but de faire avancer l'écosystème. Je pense que ce serait bienvenu.
Alors Serge, est-ce que tu as encore un élément à nous donner justement en parlant de nouveaux modèles, en parlant de nouveaux dispositifs qui viendraient accompagner l'écosystème du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique ? Est-ce que tu veux nous en dire un mot de plus ?
Je pense aussi à la volonté de promouvoir l'esprit de solidarité. L'esprit de solidarité entre les fédérations dites plus nanties que les autres. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on sait que telle ou telle fédération, pour ne pas les nommer, ont plus de moyens que les autres. Donc, à un moment donné...
T'es sûr que tu veux pas les nommer?
Le football, on va dire. Le football.
D'accord.
Et donc, on va voir, est-ce que les fédérations de foot peuvent mettre en place une sorte de panier de solidarité où elles pourraient aussi aider les fédérations juste qui sont moins nanties par le biais soit du sponsoring qu'elles ont en excès ou soit aussi comment dirais-je, leur argent, parce que souvent ils se retrouvent avec de l'excès tandis que d'autres sont en moins. Donc
c'est ambitieux,
comment
ça.
Créer mais il faut innover, sinon
les fédérations ne sont pas en compétition pour aujourd'hui plutôt qu'en
pas du tout
en
parce collaboration. Que il faut faire une approche différente. On est complémentaires les uns les autres puisque c'est des sports différents, donc on ne peut pas être en compétition.
Mais donc, les budgets
sont malheureusement sont partagés en fonction de l'intérêt et de la position
du retour sur image
que cette fédération-là peut avoir. Prends l'exemple du foot. Tout le monde aime le foot, mais tout le monde n'aime pas le judo. Tout le monde n'aime pas. Je pense qu'après le foot, c'est l'athlétisme qui vient, et après le rugby, etc. Donc, est-ce que entre fédérations, s'assoit et réfléchit à une sorte de d'entraide, ou alors ne pourrait-on pas créer une sorte de tontine tournante où il y a un petit budget social interfédéral où on met quelque chose pour pouvoir aider la fédération de façon tournante. Vraiment essayer d'innover pour pouvoir trouver ces nouvelles idées via l'esprit de solidarité pour que ces fédérations, entre elles, puissent être mieux organisées et aussi s'entraider entre elles en attendant ce que, de façon complémentaire, les différents budgets du ministère et les mécènes puissent vraiment venir les aider et aller encore de l'avant.
C'est très intéressant et je répète, c'est très ambitieux, mais il faut être ambitieux probablement. Effectivement, cette solidarité interdisciplinaire, c'est un concept très intéressant. Donc, tu as évoqué trois points. Tu as évoqué le point du cadre réglementaire et légal qui est porté par la tutelle du sport, un ministère en l'occurrence. Tu as évoqué ensuite une dimension entrepreneuriale d'une fédération, à savoir créer des actifs, investir pouvoir générer des revenus à sa disposition pour ensuite réinvestir sur le développement de sa pratique et de sa discipline. Et tu finis par évoquer également au niveau des fédérations une stratégie commune pour pouvoir s'auto-stimuler, s'auto-porter, s'entraider, être solidaires les unes des autres avec une stratégie commune. C'est donc, ça demande quand même pas mal de travail, mais il en faut. Il faut du courage, il faut de la vision. Il faut du leadership éclairé pour tout ça. Serge, je te remercie infiniment pour tes idées, pour tes avis, pour tes apports. On a compris que le sport était au cœur de ton parcours, au cœur de ta vie. Et je serais heureux que tu donnes le mot de la fin, que tu nous donnes un message, que tu nous dises en quelques mots aujourd'hui ce que tu souhaites voir pour le sport africain et le sport ivoirien.
Jean, merci encore une fois d'avoir pensé à moi, Emmanuel, d'être le premier à inaugurer donc cette première série de podcasts sur le sport. Et pour moi, c'est une passion, comme je l'ai dit. Hein. Et en tant que passionné, c'est une passion pour moi, le sport, toute ma vie. Et les choses, ces valeurs que le sport m'a inculquées toute ma vie, je pense que je suis en droit, c'est un devoir pour moi, toute ma vie aussi, de pouvoir participer là où il y a une envie de développer et d'amener le sport à une autre dimension, d'être présent. Donc, ces idées que je viens d'énumérer font partie de pas mal d'une série d'idées pour que je veux apporter personnellement comme idée de fraîcheur et en termes de réorganisation législative, en termes de régulation, en termes d'organisation, parce que je pense qu'il est temps que le sport africain de l'Ouest et africain francophone en façon générale puisse s'industrialiser. Mais on ne se programme pas industrialiser. Il y a tout un écosystème de choses à mettre en place. Mm-hmm. Et ces choses-là commencent avant-hier. Et je pense qu'il faut...
On est en retard alors?
On est en retard.
D'accord.
Voilà, donc pour dire ça... Pour dire
donc c'est ça ton mot de la fin, c'est qu'on est en retard.
On est en retard, on perd du temps.
D'accord.
On bousille la carrière sans s'en rendre compte.
D'accord.
Des jeunes talents, c'est une sorte de génocide, entre guillemets, c'est le mot, de jeunes talents qui, pour faute de moyens et d'encadrement et d'écosystèmes favorables, n'arrivent pas à exploser. Donc, je pense que avant-hier est l'heure pour nous de mettre en place rapidement les jalons d'une industrie réelle, palpable et dans laquelle tous ces jeunes puissent s'exprimer pour le bonheur des Ivoiriens et pour le bonheur de nos nations, parce que les nations aussi peuvent être classées. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, du Drogba, quand on parle de Muriel Aouré, du Talou, ça aussi, c'est un vecteur de revenus. Et quand on voit en Mondiovision, Muriel Aouré et Talou au clou, en finale du championnat du monde, ça n'a pas de prix. Ça nous réclame qu'il y a un prix extraordinaire. C'est de la publicité, c'est du tourisme. Les gens se disent, où est Ivory Coast? Où est la Côte d'Ivoire? On ne s'en rend pas compte. Mais tout cela doit être capitalisé et organisé dans un organisme de haut niveau qui va tenir compte de l'évolution, de la gestion de la carrière de ces sportifs et de la détection des jeunes futurs. C'est ça qui me fait courir.
Merci Serge Do. C'était donc Serge Do, champion d'Afrique en athlétisme, sportif de haut niveau, businessman, naviguant entre les États-Unis et la France, manager dans le staff de Muriel Aouré, très investi dans le sport en tant que vice-président de la Fédération ivoirienne d'athlétisme. C'était le premier épisode de la série Les Faiseurs de sport ou Sportmakers en anglais, produit par Smart Sport. Nous vous remercions beaucoup de nous suivre et à la prochaine fois. Au revoir. Au revoir, Serge.
Au revoir, Emmanuel. Merci.